Vous écoutez, on lit pour vous.
La mémoire de nos luttes. Du passé, ne faisons pas table rase. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue. En réfléchissant aux 40 ans de Fugue, dont je crois qu'on découvrira son rôle dans toute son importance, peut-être dans 2 ou 3 décennies, je me suis demandé si nous n'avions pas rangé nos luttes dans des boîtes à souvenirs, prenant lentement la poussière de l'oubli. On aime bien commémorer, mais commémorer, c'est tuer une seconde fois. On fiche dans l'histoire, on épingle les luttes comme des papillons dans des vitrines. On ne perçoit plus dans l'histoire avant tout le mouvement qui la traverse et qui nous traverse toujours. À l'espace Go, Kevin Lambert a adapté le dernier roman de Marie-Claire Blais, Un cœur habité de 1000 voix. La pièce se termine par le rappel de nos luttes avec la question centrale qui reprendra le flambeau. Kevin Lambert parle d'un testament politique de Marie-Claire Blais, et c'est vrai. Des premières manifestations dans les années 70, des batailles pour lutter contre les lois discriminatoires, des colères contre l'indifférence des autorités politiques et sanitaires face à l'arrivée du sida, des alliances parfois houleuses ou méfiantes avec les mouvements féministes et lesbiens. En entrevue avec Fugue, le metteur en scène et comédien Alexandre Fecteau venait de découvrir l'ampleur de la tragédie du sida qui l'avait amené à mettre en scène « N'essuie jamais de larmes sans gants », l'adaptation du roman de Jonas Gardel. Il voulait que cette tragédie ne s'efface pas de nos mémoires collectives. Notre histoire ne doit pas disparaître et elle peut nous servir de guide dans les temps incertains que nous traversons. Aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un recul pour nos droits, pour notre sécurité. Le vent vient du sud, des États-Unis. Mais d'autres vents soufflent sur le reste de la planète, apportant des relents de conservatisme, de religiosité. On parle de l'Ouganda, de la Russie, et la liste pourrait s'allonger. Même les plus tièdes, de ceux et celles qui pensent que nous vivons ici dans la plus meilleure société pour les 2SLGBTQ+, commencent à s'inquiéter. Même la ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, s'est montrée préoccupée par le ressac qui se manifeste ailleurs. Cela dit, avec la création du Comité des sages, le gouvernement auquel elle appartient apporte sa pierre à ce recul. Pas très grave, pourrait-on se dire. Le comité n'a pas encore fait de recommandations. Mais compte tenu du contexte, on est en droit de se demander si cela sonne un signal d'alarme. Rappelons simplement que c'est la première fois depuis 3 décennies qu'un gouvernement décide de s'occuper de « nous », sans que l'on soit invité à la table de la réflexion. Devant cette situation, les organismes 2SLGBTQ+, adoptent différentes stratégies. Certains privilégient les rencontres et les discussions avec le gouvernement, espérant sensibiliser les personnes en position de décision et faire fléchir des politiques qui n'iraient pas dans l'intérêt de nos communautés ou représenteraient un recul réel des acquis. D'autres préfèrent une démarche plus frontale, avec des manifestations, mais surtout dans un esprit de résistance en faisant appel à d'autres organismes de la société civile, comme des associations étudiantes. Sans nécessairement exprimer qu'il y a d'importantes dissensions au sein de nos communautés, la création de la coalition « Nous ne serons pas sages » fait ressortir l'impatience devant les limites du lobbyisme poli et institutionnalisé qui s'est installé dans les relations avec les gouvernements. Il faut rappeler que la création du Comité des sages a été décidée sans l'avis de la ministre du Bureau de lutte contre l'homophobie et de la transphobie, sans consultation du Conseil québécois LGBTQ. Certains en sont venus à se demander si le premier ministre et le ministre de l'Éducation comprennent les enjeux et nos réalités et s'ils ne pensent qu'à calmer les critiques contre la visibilité plus grande des questions de non-binarité et transgenre. Bien sûr, ils nous aiment, mais à condition que nous soyons sages, gentils, propres sur nous et tellement drôles. Je joue le cliché, certes, mais il est navrant de voir des représentants et représentantes d'organismes jouer cette carte-là. Bien sûr, les différentes personnes qui ont des communications régulières et soutenues avec le Bureau de lutte n'apprécient guère la création de ce Comité des sages. Même si elles sont consultées par le dit comité, faisant le pari qu'elles pourront influer sur les conclusions qu'il en tirera début 2025. D'autres aimeraient qu'elle demande au gouvernement de se tenir debout face aux discours et aux manifestations de droite qui s'installent et rappeler les valeurs défendues par le Québec. On pourrait croire, par ce long détour autour du Comité des sages, que je m'éloigne du sujet premier, la mémoire de nos luttes, mais c'est bien à partir de cette mémoire que nous pouvons analyser et commenter ce qui se passe aujourd'hui. Si nous oublions d'où nous venons, ce que nous avons traversé, nous ne pouvons alors comprendre pourquoi le Comité des sages n'est pas qu'un simple accident anodin. Il est emblématique de ce que nous avons toujours combattu depuis si longtemps. Entendre que l'on prenne la parole à notre place pour qu'on ait enfin droit de citer. Cette place durement conquise ne doit pas être aujourd'hui soumise au bon vouloir des décideurs qui nous la laisseraient ou nous la reprendraient selon leurs intérêts du moment, avec le risque de nous effacer totalement. Cette mémoire qui devrait nous habiter est aussi fragile. Contrairement à l'identité culturelle, linguistique, voire religieuse, notre histoire ne se transmet pas par la famille où les membres se chargent de la transmission d'une histoire individuelle et collective. Pour les jeunes 2S LGBTQ+, cette histoire est à découvrir, voire à apprendre. Elle ne fait pas partie des bagages quand on commence sa vie de gay, de lesbienne, de trans, de non-binaire, etc. Les relations intergénérationnelles entre 2S LGBTQ+, ne sont pas si valorisées, et pourtant, elles serviraient de point de jonction entre la mémoire de nos luttes et ce qu'on vit aujourd'hui. Les archives gays du Québec ne sont pas un musée de notre histoire, bien au contraire. Elles sont le trait d'union indispensable entre les générations, entre le passé et l'avenir. Elles sont une source inépuisable pour savoir d'où nous venons, et on peut rêver pour savoir où nous allons. L'oubli est un des plus grands dangers. Ne devenons pas amnésiques des luttes antérieures, elles sont le terreau sur lequel nous pouvons encore grandir. C'était La mémoire de nos luttes, du passé ne faisons pas table rase. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Du biocarburant à partir d'algues. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 mai 2024 dans la presse. On retrouve des métaux lourds issus de la pollution industrielle jusque dans les algues. Mauvaise nouvelle? Pas pour des chercheurs qui tentent d'extraire ces métaux rares afin de produire du biocarburant. Nous travaillons depuis 2015 sur la production de biocarburant à partir d'algues, explique Scott Edmondson, botaniste qui dirige la section de biogéochimie du Laboratoire national du Nord-Ouest du Pacifique, PNNL, du gouvernement américain. Assez rapidement, nous avons rencontré le problème des résidus des algues. Comment s'en débarrasser autrement qu'en les envoyant au dépotoir? Juste avant la pandémie, j'ai eu l'idée de purifier les métaux présents dans les algues. Plusieurs sont des métaux rares essentiels à la transition énergétique. En décembre 2023, M. Edmondson a démontré dans un rapport qu'il est économiquement rentable d'extraire de certaines algues des lanthanides, famille de 15 éléments chimiques qui font partie des terres rares utilisées dans les batteries. Son projet, appelé Uncle Sam, extraction de lanthanides critiques non réalisés par biominerais d'algues, vient d'être choisi par un programme de subvention aux technologies de biominerais du département de l'énergie américain. Au départ, nous avions pensé à la récupération du phosphore et du fer, mais ce n'était pas assez rentable pour produire du biocarburant algal. Mais avec l'exploitation des métaux rares dans les algues, on peut potentiellement obtenir une rentabilité, selon Scott Edmondson. À la limite, on pourrait simplement vendre les protéines extraites des algues, poursuit M. Edmondson, un marché qui existe actuellement, mais qui est limité aux algues non contaminées par la pollution. Le seul autre groupe dans le monde qui étudie cette question est situé au Portugal. Il travaille depuis une dizaine d'années sur l'utilisation d'algues comme sentinelle de la pollution, dit M. Edmondson. Ce sont les travaux de ces chercheurs qui ont montré le potentiel des algues à bioaccumuler certains polluants, dont certains métaux rares. Comme moi, ils se sont rendus compte qu'on pourrait extraire ces minerais qui sont actuellement soit extraits dans des pays pauvres, en guerre, ou alors contrôlés par la Chine. Nuire aux écosystèmes? À l'Université Laval, le biologiste Ladéric Johnson, spécialiste des algues, estime que cibler les minerais rares des algues pourrait être une stratégie viable. Il y a plein d'exemples de gens qui ont proposé d'utiliser les algues pour en extraire différentes molécules, dit M. Johnson. Mais généralement, on se heurte à des limites, on ne parvient pas à en produire assez. On produit des protéines pour les produits cosmétiques, par exemple, ou alors on prend les algues comme telles, comme engrais ou composants de produits alimentaires. Le danger, selon M. Johnson, et que l'exploitation minière des algues menace des écosystèmes. Les algues sont essentielles au bon fonctionnement de plusieurs écosystèmes. Alors, il ne faut pas les éliminer pour en extraire des minéraux, nous avertit Ladéric Johnson. À quoi sert la concentration de certains métaux et minéraux dans les algues? Des chercheurs japonais ont montré en 2011 que les lanthanides rendaient plus actives certaines enzymes des algues. Depuis, c'est un domaine de recherche en ébullition. Rentabiliser les usines de désalinisation. Traditionnellement, les projets de biominerais utilisaient des bactéries pour produire ces minerais. Mais on a des limitations de quantité et des coûts importants, dit M. Edmondson. C'est que les bactéries sont insérées dans des bassins d'eau de mer pour concentrer biologiquement les minerais et métaux. Mais le processus est lent, alors les quantités produites sont limitées. L'autre avenue, dit-il, est d'extraire les minéraux de l'eau de mer. C'est envisagé depuis longtemps pour rentabiliser les usines de désalinisation. L'un des épisodes marquants de l'histoire des biominerais implique l'inventeur des engrais chimiques, l'Allemand Fritz Haber. Après la Première Guerre mondiale, il avait calculé que l'Allemagne pourrait rembourser ses dettes de guerre en extrayant de l'or de l'eau de mer, dit M. Edmondson. Comme c'était le chimiste le plus réputé du monde, le gouvernement allemand l'a écouté. Il a installé des extracteurs sur des navires faisant le transport de passagers dans l'Atlantique. Mais il avait basé ses calculs sur un échantillon placé dans un bécher sale. Alors, il a récolté 1000 fois moins d'or que prévu. La bioaccumulation des métaux dans les algues pourrait-elle rendre le rêve de Fritz Haber rentable? Peut-être pas directement, mais en extrayant d'autres minerais rares, on pourrait peut-être rentabiliser l'extraction d'or des algues. Les algues au Québec. Une poignée d'entreprises québécoises exploitent les algues comestibles, selon Ladéric Johnson. C'est surtout dans la baie des Chaleurs. Ce sont de très petites entreprises. Selon un article de 2021 de l'Ordre des diététistes du Québec, 14 espèces d'algues sont récoltées de façon artisanale au Québec et une est cultivée. Et en Chine. La Chine est le géant mondial de la récolte d'algues. Les deux tiers de la production mondiale, plus de 2,5 millions de tonnes par année, ont lieu dans l'Empire du Milieu, selon une étude chinoise publiée en 2015 dans le Journal of Applied Psychology. Plus de 90% de la production chinoise est alimentaire. Les algues sont très prisées dans la cuisine asiatique et la Chine a fait beaucoup de recherches dans leur utilisation dans d'autres domaines, notamment comme engrais, dit M. Johnson. En savoir plus, source Radio-Canada, 1,5 million, montant des subventions au projet InnoValgues sur la récolte d'algues québécoises. 8. Nombre de permis commerciaux de récolte d'algues au Canada en 2021. C'était « Du biocarburant à partir d'algues », un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 mai 2024 dans La Presse.
Un million d'amoureux en pleine crise de l'habitation, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 avril 2024 dans La Presse. On l'appelle la crise du logement, mais ce n'est sans doute pas le nom idéal. Dans le langage courant au Québec, un logement est un loyer, un appartement loué. On l'utilise rarement dans un sens large qui inclut autant le HLM que le manoir avec trois portes de garage. D'ailleurs, on n'entendra jamais le propriétaire d'une maison en banlieue annoncer à ses voisins qu'il va refaire la cuisine ou le toit de son logement. Lorsqu'il est question de la crise du logement, on a donc tendance à penser au manque d'appartements locatifs, aux prix qui ont explosé, aux rénovictions, aux familles démunies qui s'entassent dans des demi-sous-sols insalubres, faute d'avoir trouvé mieux. Tout cela est aussi inquiétant que triste, bien sûr. Mais ce n'est qu'une partie du problème. L'inabordabilité des propriétés contribue aussi à cette crise. Aujourd'hui, c'est bien simple. Un revenu dans la médiane ne permet plus de devenir propriétaire dans une majorité de villes au pays. Pas même d'un condo ordinaire. La crise de l'habitation touche désormais les travailleurs ayant un revenu dans la moyenne et elle n'est plus concentrée dans les grands centres urbains. Il ne s'agit plus d'une histoire de prix élevés à Vancouver et à Toronto. Dans deux marchés urbains sur trois que nous suivons, le coût de propriété dépasse désormais 35 % du revenu médian des ménages, ce qui est excessif, écrit Robert Hogg de la Banque Royale, RBC, dans une nouvelle étude sur le marché de l'habitation. L'expert ajoute « Ce phénomène qui crée d'intenses tensions entre les générations atteindra un niveau encore plus alarmant si rien n'est fait maintenant. À cause de la flambée des prix et des taux d'intérêt, seulement 45 % des ménages canadiens gagnent assez d'argent pour s'acheter un condo et 26 % peuvent espérer devenir propriétaires d'une maison unifamiliale. C'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans. En fait, c'est beaucoup moins qu'à n'importe quelle époque, quoi qu'en pensent ceux qui ont acheté au début des années 1980. Les jeunes travailleurs qui ne voient pas le jour où ils pourront accéder à la propriété n'exagèrent donc pas leur malheur. Ils savent compter. Un million de nouveaux couples d'amoureux qui se formeront d'ici la fin de la décennie seront incapables de devenir propriétaires, calcule Robert Hogg. Même s'ils rêvent de plus grand pour fonder une famille et d'une piscine hors terre, leurs revenus ne suffiront tout simplement pas. Hélas, plus de 40 % d'entre eux n'auront même pas un revenu suffisant pour payer un logement au prix actuel du marché. Comme tout ce beau monde devra forcément se loger, voyez-vous poindre des problèmes à l'horizon? La pression sur le gouvernement et les villes pour trouver des solutions n'ira qu'en s'accentuant. Les parents de ces tourtereaux à la recherche d'un nid douillet risquent aussi d'être mis à contribution. Gageons que les demandes et les offres d'héritage versées avant le décès bondiront. Mais tous les jeunes couples n'arriveront pas à accumuler une somme suffisante pour une mise de fonds. La demande pour les logements locatifs continuera donc de croître, au point où il ne faudrait construire que cela, ou presque. Les plus chanceux et les mieux payés se tourneront surtout vers les condos. La RBC prévoit que les acheteurs potentiels de copropriétés seront, d'ici 2030, deux fois plus nombreux que les acheteurs de maisons individuelles. Le secteur de la construction devra s'ajuster à cette demande, tout comme les villes qui devront favoriser les projets qui améliorent la densité sur leur territoire. Au fil des ans, le taux de propriété du Canada, 66 % en 2021, est susceptible de dégringoler. La baisse des taux d'intérêt attendue pour le milieu de l'année n'aura pas beaucoup d'effet sur l'accessibilité car il manque de propriétés. Il y a bien pire dans la vie que d'être incapable de s'acheter une maison, c'est vrai. On peut vivre à Gaza, en Haïti, en Ukraine, on peut frôler la mort chaque jour, avoir faim, mais dans un pays prospère comme le Canada, la crise du logement est problématique, et pas seulement pour les ménages à faible revenu, pour l'économie tout entière. Comme le rappelle la RPC, la crise a un impact sur la capacité du Canada à attirer les talents et les investissements, et elle se répercute sur les politiques gouvernementales en matière d'immigration, comme les plafonds imposés aux étudiants étrangers et aux travailleurs étrangers temporaires. La solution à ce déséquilibre d'une ampleur inédite entre l'offre et la demande n'est pas simple, encore moins unique. Mais on peut agir, et Robert Hogg énumère 7 façons de le faire. Accroître le nombre de travailleurs dans le secteur de la construction, construire des propriétés de manière différente et plus efficace, maisons préfabriquées, catalogue de plans préapprouvés, approuver les projets plus rapidement, moins de paperasse, d'exigence, permettre une plus forte densification des espaces et plus de diversité de logis, réduire le prix de la construction en choisissant mieux les matériaux, construire davantage de condos et moins de maisons, convertir les immeubles de bureaux ou commerciaux en logements résidentiels. À méditer en regardant les maisons à vendre sur Centris. C'était « Un million d'amoureux en pleine crise de l'habitation », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 avril 2024 dans la presse.
Pourquoi un ordinateur quantique? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 mars 2024 dans la presse. À quoi sert un ordinateur quantique? Se demande une lectrice, Marie Pépin. À moyen terme, à résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs traditionnels. Par exemple, ils rendront du jour au lendemain caduques tous les cryptages actuels. Cela pourrait donner un avantage immense au pays qui disposera le premier de cette technologie. Ce sont des machines qui vont servir des besoins très particuliers au départ, explique Claude Crépeau, spécialiste du domaine à l'Université McGill. On a identifié 4 ou 5 applications déjà où un ordinateur quantique sera beaucoup plus efficace, et il devrait y en avoir d'autres. Au début de mars 2024, Google a lancé un prix de 5 millions US pour récompenser des démonstrations d'autres applications où l'ordinateur quantique sera essentiel. Une puce d'ordinateur traditionnelle fonctionne en envoyant l'un de 2 messages, soit un 0, soit un 1. L'ordinateur quantique a un nombre pratiquement infini de messages entre ce 0 et ce 1, explique M. Crépeau. Ça permet des calculs beaucoup plus complexes. C'est ce qui explique qu'il révolutionnera la cryptographie. Si on a un ordinateur quantique demain matin, tous les codes de chiffrement sont cassés. Tout le monde peut voir les informations cryptées, dit Claude Crépeau. Depuis que cette capacité des éventuels ordinateurs quantiques a été confirmée, il y a 10 à 15 ans, les grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis, par exemple, copient tout ce qui est déposé sur l'Internet pour pouvoir le décoder quand elles disposeront de cette technologie, selon M. Crépeau. Il y a une certaine urgence de changer les systèmes de chiffrement. Depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement pour les remplacer par de nouveaux standards qui ne seront pas vulnérables. Les ordinateurs quantiques actuels sont l'équivalent de jouets, selon M. Crépeau. Ils fonctionnent, mais ils ont une mémoire et une fiabilité qui ne leur permettent de faire qu'une dizaine d'opérations. Il faudrait qu'ils soient capables d'en faire 10 000 ou 100 000 pour que ça soit utile. Ce qu'on sait, c'est qu'on va y arriver d'ici 5, 10 ou 20 ans. Loi de Moore. Depuis quelques années, la miniaturisation des puces d'ordinateurs traditionnelles a atteint des limites proches de la taille d'un atome. Ainsi, la loi de Moore, qui prédisait en 1965 que le nombre de transistors par puce doublerait chaque année, pourrait bientôt être caduque. On est rendu à des distances de 2 nanomètres entre les composantes d'une puce, explique Delphine Bouilly, physicienne de l'Université de Montréal, qui travaille sur le sujet. Ça équivaut à 5 ou 6 atomes. On ne pourra pas couper un atome en deux. On peut continuer à progresser avec de l'optimisation, l'intelligence artificielle et de nouveaux matériaux. Mais il est possible qu'il y ait des limites à l'augmentation de la puissance des puces actuelles. Pour le moment, les puces quantiques ne sont pas destinées à remplacer les puces actuelles, selon Mme Bouilly et M. Crépeau. Mais, contrairement à ces dernières, les puces quantiques n'ont pas cette limite de miniaturisation et pourraient donc, éventuellement, prendre le relais. En savoir plus, source McKinsey. 2,35 milliards US. Investissement en 2022 dans des entreprises en démarrage, start-up, d'informatique quantique aux États-Unis. C'était « Pourquoi un ordinateur quantique? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 mars 2024 dans La Presse.